tous. Dernier épisode aujourd'hui de notre série de 10 grandes voix européennes avec Roger Scruton. Dans son essai « L'erreur et l'orgueil » aux éditions de l'Artilleur, il déboulonne une à une les figures intellectuelles de la gauche européenne et réhabilite une pensée conservatrice qu'il juge salvatrice. Partisan du Brexit, le philosophe britannique nous donnera à partir de 12h55 son analyse de la situation entre faux départ et non-respect de la parole des Britanniques. Mais d'abord, un vent d'Est avec Christophe Warlikowski. Le metteur en scène reprend Lady Macbeth de Dimitri Shostakovich à l'Opéra Bastille jusqu'au 25 avril, directeur du Novi Théâtre de Varsovie. Il travaille aujourd'hui sur toutes les scènes d'Europe, revisitant les œuvres de Shakespeare ou de Marcel Proust, adaptant le tramway de Tennessee Williams comme le Krumm d'Anok Levin. Il est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Du théâtre, de l'opéra, l'ancien étudiant en philosophie à l'université de Cracovie, puis en théâtre grec à l'EHESS, est devenu une figure de la scène européenne. Après avoir travaillé aux côtés du Britannique Peter Brook, du Polonais Christian Lupa, du Suédois Ingmar Bergman et de l'Italien Giorgio Strehler, il dirige aujourd'hui le Novi Theater de Varsovie et crée sur toutes les scènes d'Europe. Bonjour Christophe Warlikowski.
Bonjour.
Après Iphigénie en Tauride et le diptyque Le Château de Barbe Bleue et la Voix Humaine, jusqu'au 25 avril, vous mettez en scène pour l'Opéra Bastille Lady Macbeth, un opéra en quatre actes de Shostakovich, interprété ici par une soprano lituanienne, je ne sais pas si j'arrive à bien prononcer son nom, Osrine Stundite. Un opéra sur la condition féminine à travers la figure de cette Lady Macbeth adultère, criminelle. Qu'est-ce qui vous intéressait chez cette héroïne, cette Katerina ?
Je crois qu'il faut commencer d'abord avec Shostakovich parce qu'il faut se rendre compte qu'il a écrit cet opéra à l'âge de 27 ans. Donc, un jeune avec une énergie incroyable. Donc d'abord, un homme de 27 ans, qu'est-ce qu'il constate ? C'est les années 30, l'opéra s'ouvre à des sujets jamais traités avant. Et puis on est en Russie soviétique, donc un pays qui vit toujours la révolution. J'imagine c'est un énorme geste de liberté de son côté d'écrire cette œuvre, parce que c'est comme un geste d'espoir presque dans le monde soviétique. Et il donne la parole à une femme d'une manière tellement, on peut dire, moderne. Mais moderne, il faudrait être dans les années 30 pour vraiment parler de la modernité. Donc il y a des scènes intimes avec Katerina. Il y a des scènes de sexe. Il y a des scènes de solitude. Il y a des scènes de désir. Tout ça tellement exposé que ça pousse Staline à interdire cette œuvre qui devient un énorme succès en Russie soviétique et puis sort tout de suite en Europe. Le retour à cette œuvre interdite après tant d'années à l'Opéra de Bastille, ça prend bien sûr un nouveau sens.
Elle est d'abord jouée une première fois dans les années 90 à l'Opéra Bastille, vous la reprenez aujourd'hui. Vous dites au moment où il la crée, Shostakovitch, dans les années 30, sous Staline, à Leningrad, elle sera d'ailleurs interdite pendant plusieurs représentations et la Pravda la jugera pornophonique, pornographique, donc c'était très très transgressif en 2019. Est-ce que vous pensez que les mœurs ne sont pas aussi libérées qu'elle le semble, et que cette pièce très moderne il y a un siècle l'est finalement dans votre mise en scène, à travers votre regard aussi, ultra moderne aussi aujourd'hui?
Mais écoutez, on aurait pu penser que ça change énormément si dans la partition est écrit une scène de sexe et qui dure 4 minutes avec toutes les possibilités de l'orchestre pour... Je sais pas raconter, mais au moins nous faire penser au sexe. C'est-à-dire la différence, c'est que dans les opéras du 19e siècle, c'est pas tout à fait indiqué. Là, ça commence, là, ça finit. Ici, avec Shostakovitch, c'est très simple. Là, ça commence, 4 minutes après, ça finit. On aurait pu dire c'est un temps réel d'un acte d'amour. Donc ce qui est offensif, c'est plutôt la durée. Et après, c'est toute une cavalcade de l'orchestre qui nous fait penser à cela. Tandis que si on verrait la même chose chez Verdi, on serait complètement choqué, on n'aurait pas accepté, on aurait parlé de la liberté de metteur en scène. Mais au moins c'est clair dans le cas de cet opéra.
C'est déjà dans la partition, c'est dans la musique.
Mais aussi dans nos têtes, parce que le public de Shostakovitch est différent. Après, il y a notre accord, parce qu'on va voir une œuvre proscrite. Donc on ne peut pas se mettre du côté de Staline. Vous voyez, le public d'opéra d'aujourd'hui ne peut pas se mettre du côté de Staline, qui était dans sa loge et qui écoutait derrière le rideau et qui est disparu après deux actes. Il n'a même pas vu la fin. Cette œuvre, c'est un geste de liberté du côté de Shostakovitch et ça reste toujours un geste de liberté pas contestable à Paris, tant d'années après.
Du Staatsoper de Berlin à celui de Munich, de la Monnaie à Bruxelles, du Teatro Real de Madrid, en passant par la Royal Opera House de Londres et l'Opéra d'Amsterdam, Krzysztof Warlikowski, vous rebondissez d'une scène européenne à l'autre, aujourd'hui l'Opéra Bastille à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une culture commune européenne, ou est-ce que dans vos manières de mettre en scène, de monter des pièces d'un opéra à l'autre, par exemple sur l'opéra, mais on pourrait parler du théâtre, vous avez le sentiment de vous adapter à chaque public?
Je crois que ça vient déjà de la vie, au niveau de la vie. On pense différemment à Amsterdam, on pense différemment à Paris. Après, c'est les plateaux tellement différents. Après, bien sûr, le public tellement différent. Après, si vous voulez un art européen vraiment, on peut vraiment parler de l'opéra. Parce que déjà, hier soir, ça a rassemblé les chanteurs à partir de Moscou, Biélorussie, Lituanie, en me prenant en Pologne. Il y a un Autrichien, il y a un Anglais d'origine ukrainienne, après il y a un Tchèque. Donc vous voyez, il y a toutes ces écoles, parfois des écoles qui forment les voix très particulières. Cet opéra de Shostakovitch, exécuté par ces voix de là-bas et aussi de l'école, disons, moderne, comme la lituanienne, elle est plutôt éduquée en Allemagne. Moi, dans tout ça, je suis comme un gitan qui se déplace d'un lieu à l'autre, changeant les cultures, changeant les langues, changeant des œuvres, changeant des rites. Vous montez un Strauss en Allemagne, vous célébrez les rites germaniques. Quand vous faites l'opéra russe à Paris, il y a toute l'histoire qui revient du XXe siècle, la ballet à partir du ballet russe et tout ça. Donc il y a toutes ces histoires culturelles qui ont toujours été européennes. Ça peut être invention pour la politique, mais vous voyez, la culture européenne a été toujours très liée. Il n'y avait pas de problème de langue.
Et dans ce Lady Macbeth, il y a du Dostoïevski, il y a du Shakespeare aussi. Ça, ce sont des auteurs mondes, des auteurs traits d'union pour vous. Je pense à Shakespeare que vous avez beaucoup adapté, qui est probablement le dramaturge qui vous a le plus inspiré.
Mais vous voyez, par exemple, ce qui m'a touché il y a quelques années, j'étais à Amsterdam et j'ai retrouvé une télésérie BBC anglaise des années 80. Et c'était une télésérie La guerre et la paix. Tolstoï. Et alors, donc, Tolstoï parle les Anglais. Bien sûr, Tolstoï parle les Français, ça serait une autre histoire. Tolstoï parle les Allemands, ça serait encore une autre histoire, etc., etc. Mais là, c'était dans les pattes anglaises. Et on voit Anthony Hopkins qui joue le prince Bezoukhov. Et vous voyez toute l'école anglaise qui travaille pour cette narration impossible ni pour le théâtre, impossible pour le cinéma, et pourtant le langage shakespearien du théâtre là est une clé d'ouverture de comment on peut rentrer dans l'univers de Tolstoï. Et là vous voyez avec la perfection du réalisme anglais des années 80, mais ils sont toujours forts dans cette reconstruction de la vie. Et alors, il y avait une scène des deux personnages, un Français avec un Russe. Alors, deux ennemis à Moscou qui se fait brûler et tout ça. Et ils commencent à boire. Et en buvant, les deux, Bezoukhov qui parle parfaitement français, ils commencent à chercher, mais en quoi toi tu es mon ennemi français, en quoi moi je suis ton ennemi russe, mais nous sommes deux humains, on parle le même langage. C'est assez troublant comment la culture a toujours ouvert les portes pour qu'on soit plus proche.
Et comment elle vous traverse aussi, probablement. C'est Giorgio Strehler avec lequel vous avez travaillé, l'Italien, le fondateur du Piccolo Teatro de Milan et du Théâtre de l'Europe, qui disait que le théâtre est toujours en avance sur les structures politiques de l'Europe, que cette réalité, elle est déjà bien présente, l'Europe, dans la communauté des arts, et que nous sommes tous des bâtards culturels. Ça, il le disait il y a une trentaine d'années. Vous, vous vous sentez jeune européen, ça fait que 15 ans que la Pologne a adhéré à l'Union européenne, mais depuis longtemps traversée par toutes ces identités.
Oui, pour nous, ça a vraiment commencé en 89. Disons qu'on arrive à une liberté pour la première fois après la guerre. Vous voyez, c'est surtout important pour moi. Moi, j'étais un jeune metteur en scène qui a fait ses débuts à la fin des années 90 en France. Mais en Pologne, j'ai commencé dans les années 80, tardif, disons. Et c'est surtout d'être, vous voyez, faire partie de la Pologne, c'est d'être second hand. Vous voyez, ça m'a beaucoup aidé de ne pas devoir porter sur mon dos nationalité française ou nationalité allemande, où on peut se vanter, où on peut être gêné. Tout est possible dans les deux. Mais d'être quelqu'un représentant d'un pays mineur, avec une culture très importante, mais en même temps, finalement, très peu connue, disons que c'est justement l'Europe politique qui a rendu possible vraiment coexistence de ces écoles de pensée d'Occident et d'Est à partir des années 90 pratiquement. Donc justement, on était cousins tous, si vous voulez, dans le monde de culture, mais là on devient cousins en réalité. C'est une question de se rendre compte ce que ça veut dire l'Europe.
Mais faire voyager aussi ces cultures au sein de l'Union européenne. Je voulais vous demander si on prend l'exemple des Français, qui est une adaptation de la recherche de Proust, pourquoi vous continuez à monter des pièces d'auteurs français en polonais? Pourquoi pas dans la langue de l'auteur? Ou en anglais, qui est la langue dominante en Europe aujourd'hui?
Vous voyez, c'est aussi pas si évident que ça, parce que est-ce que vous voyez déjà un spectacle d'après Marcel Proust en français? Il n'y a pas cette chose qui est troublante quand même, c'est-à-dire d'être en France par exemple et de voir la compagnie polonaise avec moi qui suis très présent en France depuis des années et que nous on arrive avec un projet qu'on intitule Les Français, tandis que c'est une adaptation très vague des impressions sur la lecture de Marcel Proust. Donc tout ça devient une pilule de quoi, d'un point de vue polonais sur la France, sur les Français, sur les Parisiens de Marcel Proust, sur les salons de Guermantes ou de Verdurin parisiens du début du siècle, où ça parle des salons d'aujourd'hui parisiens. Mais de toute façon, qu'on puisse entendre les Polonais parler des Français, c'est pas trop mal. Je crois qu'il faut justement s'exprimer. Nous, les Polonais, on s'exprime en langue de Proust. On parle sa langue. On imite dans le sens très large. On imite les Français. Et on est quand même des Polonais d'aujourd'hui qui faisons partie de l'équipe de Nowe Teatr, d'un théâtre complètement nouveau qui existe à Varsovie depuis 10 ans et qui est une île de prise de parole européenne à Varsovie.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Justement sur le Nowe Teatr que vous avez fondé, parmi ses raisons d'être, vous avez récemment créé On s'en va, d'Hanok Levin, le dramaturge israélien, très critique envers la réalité politique et sociale de son pays, que vous avez transformé, le vécu de ces personnages en tout cas, dans votre Pologne, une Pologne perdue, sans idéal, qui se cherche. Et vous disiez, c'est d'abord l'histoire d'une communauté qui rapetisse à ce sujet-là. On voit qu'il reste néanmoins le plateau de théâtre, les comédiens. Le théâtre, c'est aussi ça, pour vous aujourd'hui, un lieu de résistance dans cette Europe qui est un peu chahutée par des vents très contraires.
Mais écoutez, le théâtre fonctionne plus la réalité va mal, plus le théâtre doit se réveiller. Je ne dis pas se réveille forcément, mais doit se réveiller. Bien sûr, cette Pologne perdue, mélange de langage, manque d'autorité, que ce soit politique ou morale, la mort des dinosaures qui étaient comme gardiens du niveau de la pensée, que ce soit politique, philosophique, réflexion sur aujourd'hui. Oui, c'est très difficile de travailler dans un endroit comme ça. Mais en même temps, vous voyez, on était choqués par ce qui s'est passé. Il ne faut pas se méprendre sur la Pologne parce que même si c'est un pays très jeune, européen, finalement, ce qui s'est passé au moment où la droite a pris le pouvoir, c'était la fréquentation pour le votage, c'était le plus bas, c'était 18% de ceux qui avaient le droit de voter qui ont élu ça. Après, bien sûr, tout ce qui se fait en Pologne, tout ce qui touche et ébranle la constitution, les tribunaux et tout ça, bien sûr, c'est quelque chose qui vient après. On était tous sous le choc, sans avoir la possibilité de réplique dans une situation qui nous a envahis. Mais après ces quelques années de blablabla et de se voir complètement perdu et perdant, parce que ce qu'on peut détruire en peu de temps pour reconstruire, ça va prendre des décennies. On voyait cette situation comme la merde dont on va pas sortir à moins après 30 ans ou quelque chose comme ça. Et là, il y a ces élections européennes et ça, c'est vraiment... ça va être très révélateur sur l'état des choses dans la société polonaise d'aujourd'hui, tellement bousculée, tellement surprise, tellement indignée d'un côté, de l'autre côté en extase devant ce populisme qui achète les votes en payant pour chaque enfant, en donnant aux retraités la 13e pension, tu vois, dans l'année, mais en se fichant par exemple de l'éducation. C'est l'éducation qui a été le plus troublée en Pologne, et qu'on va avoir la grève nationale des enseignants qui sont justement un groupe social complètement déprécié. Et pourtant, on se rend compte que c'est l'éducation qui peut tous nous sauver aujourd'hui, que ce soit en Pologne, que ce soit en France, que ce soit en Italie ou en Allemagne.
Parce que l'éducation, c'est la transmission de la mémoire, du passé aussi. C'est aussi ce récit-là qui se fait dans les écoles.
On a tellement vécu en Europe, surtout au XXe siècle. On est dans le XXIe et on a tous ressenti à partir des années 2010 que quelque chose ralentit tout d'un coup, quelque chose s'arrête, quelque chose et que rien n'est plus comme ça a été il y a deux jours, et que on est dans une sorte de régression où on se demande est-ce que cette Europe a besoin d'une nouvelle guerre pour s'épurer, pour redevenir innocent. Cette civilisation, il fallait qu'on se massacre dans la Deuxième Guerre, qu'on fasse des génocides carrément, pour en 45 commencer à ressourire, à redanser, à repenser le monde comme une invention géniale, pour passer les années 60, 70 dans des rêves. Et après, où on arrive, est-ce qu'on rêve aujourd'hui? La réalité qu'on vit, c'est quelque chose qui nous alarme assez. C'est une réalité qui nous offense.
Et pour vous, du coup, de cette période crépusculaire, parce que c'est aussi ce que vous mettez en scène, du procès de Kafka à Krum, de Hanok Levin, tous vos personnages sont toujours comme enfermés dans un espèce de destin, sans vraiment une possibilité d'avenir à l'horizon.
Oui, parce qu'à chaque fois, l'Europe passe par les fins. La fin telle qu'il décrit Proust de ce monde innocent, parce qu'on peut dire que Dreyfus arrive et arrive avec une nouvelle époque. Dreyfus, qu'on aurait pu croire un personnage juste historique, mais Dreyfus qui coule dans le sang français depuis. Et Montmartre avec l'église qui couronne Paris et qui en combat toujours avec la Tour Eiffel. Vous voyez, il y a toujours ces deux forces. Et ces deux forces existent dans chaque pays. On voit ça avec l'Italie, on voit ça avec Hongrie, on voit ça avec la Pologne. On voit partout ce réveil, même Varsovie est devenu un endroit privilégié de rencontres européens, anti-européens, parce qu'en fait, toute cette campagne européenne qui se prépare dans tous les pays par les nationalistes, c'est en fait des partis anti-européens qui veulent représenter l'Europe dans le Parlement. On touche à une contradiction.
Et pour terminer, si on pense à des montages que vous avez réalisés pour la scène, comme Apollonia que vous aviez créé à Avignon, qui était une pièce polyphonique que vous avez écrite à partir de plusieurs œuvres, celle de Jonathan Little, celle de Coetzee, de Ripide, de Eschyle, en réunissant tous ces auteurs d'hier comme d'aujourd'hui, vous soulignez aussi les permanences de nos sociétés, ce que vous venez de nous dire là aussi, ces points de rencontre qui se répètent dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Apollonia, il est question du sacrifice. Vous pensez que quelqu'un se sacrifierait encore aujourd'hui pour l'Europe? Et en fait, faut-il encore se sacrifier? Est-ce qu'on a encore besoin d'Europe pour vous, Christopher Lykowski?
À Varsovie, il y a peut-être un an, il y avait un vrai sacrifice. Il y avait un homme qui s'est brûlé devant le Palais de la Culture. Donc le monument soviétique qui a été construit à Varsovie dans les années 50-60. Et c'était un endroit traditionnellement, une mauvaise tradition des gens qui se brûlaient en proteste contre le système communiste avant. Mais cet homme, il n'y a pas longtemps, avec tout un manifeste contre tout ce qui était nouveau changement apporté par ce gouvernement populiste PiS, c'est avec ce manifeste qu'il s'est brûlé. Cet homme, il est mort quelques jours plus tard. Les médias n'ont pas hésité le lendemain de le traiter de fou. Et alors, à quoi servait cet acte? Il y avait même les journalistes des journaux indépendants qui n'ont pas cessé de parler d'une maladie. C'est comme si un acte aussi... un acte barbare contre la barbarie politique célébrée dans le même pays exigeait cet acte barbare contre lui-même. Cet homme a dû vivre l'enfer en se décidant et en passant par toutes ces longues journées d'agonie, à moitié brûlé. N'est-ce pas un sacrifice d'aujourd'hui.
Merci, Christopher Lykowski.